Donc aujourd'hui, comme on a été dit, hein, le fil rouge, c'était Dieu pardonne. Alors, j'ai beaucoup hésité à mettre un titre à ce que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais je me suis dit, prenons Dieu, plutôt que ce que nous prenons nous. Je veux dire, je vais mettre Dieu en avant. C'est Dieu pardonne, Dieu promet, Dieu rétablit. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à l'oubli. Alors des fois, on dit heureusement qu'on oublie certaines choses. Mais parfois, on oublie Dieu et on travaille, on fait les choses en oubliant qu'il y a la justice de Dieu. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup touché, enfin beaucoup interpellé. C'est un acteur américain célèbre de ces quelques années. Il a fait plein de choses pas très honnêtes, jusqu'à trafiquer des êtres humains. Et quand la justice l'a rattrapé, il n'avait pas eu l'impression d'avoir fait de mauvaises choses. Il avait tellement vécu dans cette manière de vivre qu'il pensait être au-dessus des lois. Quand il a été reconnu coupable, il n'a pas compris. Il avait vécu tellement dans l'illégalité, son cœur était tellement rempli de ce qu'il était, qu'il n'avait donné aucun signe de repentance. Son statut l'avait persuadé d'une immunité face à la loi. Et aujourd'hui, autour de nous, on a un peu ça, hein. Quand on discute avec nos camarades, peut-être si on est à l'école, nos collègues, si on est au travail, ils n'ont pas l'impression d'être coupables de quoi que ce soit. Ces personnes sont convaincues d'une certaine humanité face à Dieu, ou la loi de Dieu existe-t-il ? A-t-il une vérité absolue à laquelle nous devons nous convaincre ? Donc ils ne sont pas coupables, donc ils n'ont pas de remords. Un prédicateur disait, lorsqu'il faisait le voyage en avion, il disait, si vous secouez quelqu'un à côté de vous en lui disant « mets ton parachute », il va pas te comprendre. Mais si tu lui dis « l'avion est en feu, mets ton parachute », vous allez voir, il va le faire tout de suite. C'était pour dire que parfois on a une mauvaise manière. On veut tout de suite montrer que le Seigneur nous sauve, mais de quoi il nous a sauvés ? Et c'est du péché. Alors ce matin, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va parler de Daniel 9. Et Daniel 9, eh bien c'est... On aurait pu l'appeler le Daniel de la prière. On aurait pu parler la prière exemplaire de Daniel. Daniel va livrer une prière, mais pas que. Et donc Daniel va prendre conscience de la vision du cœur de Dieu et de son cœur et du cœur du peuple. Et au travers ça, il va faire une très belle prière. Et après, on va voir ce message qui va venir clairement. Dieu est au contrôle du monde. Vous savez, on en a beaucoup parlé dans Daniel, hein. Mais Daniel, c'est ce qui ressort, hein. C'est que Dieu, il sait ce qu'il fait. Et Dieu y fait justice, Dieu y pardonne, Dieu y promet, et Dieu y rétablit. Donc c'est le contexte de Daniel 9, hein, on va le prendre ensemble, mais comme c'est un grand morceau, je vais déjà recontextualiser. Alors on l'a vu, hein, dans Daniel 9, hein, c'est un livre qui est divisé en deux morceaux. Il y a une grosse partie, hein, les chapitres 2 à 7, qui s'adressent au peuple, et le chapitre 1 et à partir du chapitre 7, qui vont s'adresser aux nations également. Et on avait vu, hein, cela était pour but de montrer qu'il y a un jugement universel, mais aussi une promesse universelle qui est à venir. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de ce matin, c'est ce qui est cette promesse, elle est universelle pour tout le monde. Car Daniel, là, il est au service du roi Darius, donc Daniel, c'est désormais un homme qui est âgé. Mais Daniel n'a jamais oublié, exilé qu'il est, il vit une foi dans un milieu hostile, c'est ce qu'on avait vu tout au début, vivre sa foi dans un milieu hostile, c'est un carnet de survie. Et malgré l'hostilité du monde qui l'entoure, hein, eh ben il va se saisir par la foi des promesses et se mettre en action. Et c'est pourquoi je voudrais commencer à lire, hein, cette belle prière de Daniel. Donc on va Daniel 9, de 1 à 19, et après on prendra la suite. Vous pouvez ouvrir vos bibles, moi je vais lire dans la version second. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteurs de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et ne s'est jamais arrivé sous le ciel entier, une de semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'Éternel notre Dieu est juste dans toute chose qu'il a faite, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple de ta main d'Égypte, de ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville et de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre, et tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, à notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et, par l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Quelle leçon de prière. Vous savez, je le dis souvent, mais quand on se plonge dans les Écritures, l'Écriture nous enseigne et nous corrige. Yvan disait tout à l'heure, quand on fait un camp, eh ben, le Seigneur nous montre aussi des fois ce qui ne va pas en nous et on nous corrige. Quand on devient parent, c'est aussi le cas. Quand on rentre dans un service, en fait, le Seigneur nous corrige aussi. Et quand on prépare, quand on lit la Bible, ben, le Seigneur nous reprend. Et Daniel, on voit déjà, c'est une personne. Alors Daniel, il va prier et se repent, mais c'est une personne qui est ancrée dans les Écritures. C'est la première chose qui nous interpelle tout au début du verset 9, du chapitre 9. Au verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans sur les ruines de Jérusalem. D'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel, c'est pas quelqu'un qui est en exil et puis qui compte un peu comme ça sur la foi qu'il connaissait ou sur quelque chose qu'il connaissait. On a vu Daniel, c'est quelqu'un c'est un homme de prière, c'est un homme qui n'a pas fait de concession avec sa foi. Vous rappelez, elle était exilée, il avait entre 11 et 12 ans, peut-être 13, mais c'était quelqu'un de très jeune. Et il va vivre toute sa vie déporté. Et pourtant, il va jamais faire de concession. Et là, on a un peu un élément de réponse, c'est que Daniel étudie les livres qui passaient par Babylone, ou qu'il avait apporté avec lui. En tout cas, c'était pas quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui priait, on l'a vu, il s'est fait arrêter à cause qu'il priait. Et c'est quelqu'un qui scrutait la parole de Dieu. Et par ce court verset, la Bible, elle souligne que Daniel, eh ben, il avait accès à ses livres, mais il n'en faisait pas rien. Il lisait, peut-être Jérémie, peut-être aussi d'autres livres, on sait pas ce qu'il avait. Mais par l'étude de ces textes et par la sagesse, il arrive à en déduire les temps. L'importance de lire et de s'imprégner la parole. On voit nulle part avant, il a prié comme il a prié de cette sorte. Parce que en lisant et en calculant, Daniel, il s'est dit, c'est 70 ans. Mais on arrive à ces 70 ans. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose d'important qui va se passer. C'est la promesse que le Seigneur nous a fait. Et étant plongé dans les Écritures, il s'est dit, moi, je vis qu'il y avait 70 ans. Alors, je tournais ma face vers l'Éternel. Et c'est ce qu'il va faire. Il va pas se dire, oui, c'est les temps, super, et il va continuer à servir. Mais il va prendre conscience qu'il y a quelque chose. Il va pas passer à côté. Et c'est vrai que parfois, on a des gens qui sont très brillants, des orateurs, des exégèses. Et ils lisent la parole pour nous, on a l'impression. Ils la comprennent pour nous, ils nous l'expliquent, et ça c'est très bien. Mais ne passons pas à côté de la richesse de la lire nous-mêmes, de puiser chaque jour ce que Dieu aura mis pour nous-mêmes dans la parole de Dieu. Et c'est aussi ça que ce verset très court veut nous motiver. Motive-toi à lire toi-même la parole de Dieu. Parce qu'elle va regorger de trésors, de merveilles qu'on va pouvoir partager ensemble comme ce matin. Bien sûr, le Seigneur suscite des personnes qui le font, des fois de bien meilleurs orateurs qu'on peut trouver partout, mais aussi chacun personnellement, et de pas être pris au dépourvu, et de pouvoir décrypter la parole, échanger. Et Daniel, il n'a pas renoncé à comprendre les temps prophétiques. Et il va prier, pour l'accomplissement de la promesse. Parce que le temps était venu. Vous savez, parfois, les temps sont pas toujours venus et on prie alors naïvement. Parce que vous connaissez sûrement cette histoire de cette femme qui va devenir missionnaire en Afrique, mais quand elle est née, elle voulait avoir les yeux bleus. Elle va prier longtemps pour avoir les yeux bleus. Et quand elle va rentrer dans son ministère, elle va saisir pourquoi elle n'a jamais eu les yeux bleus. Mais quand elle était petite, elle a prié longtemps. Elle a prié longtemps pour les yeux bleus. Je me souviens de cette histoire parce que c'est une histoire missionnaire qu'on nous racontait quand elle était plus jeune. Alors c'est pas tant la foi qu'a pas, Dieu n'a pas répondu. C'est qu'elle avait pas saisi le temps. Elle avait pas saisi aussi le pourquoi. Des fois on a des prières un peu naïves comme ça. On n'est plus des enfants, mais on peut avoir des fois des prières naïves. Mais le Seigneur nous demande parfois d'être naïfs, mais parfois de se dire, attends, creuse un peu. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le sujet? Et là, pour Daniel, tout est réuni. C'est le temps. Le sujet, c'est la promesse. Eh ben, il faut une prière de repentance. Et là, c'est ce qu'on avait lu, verset 3 à 19. Voilà, il va étudier cette parole. Et en l'étudiant, il va prier et intercéder. L'importance de la prière dans le discernement. Et la prière dans le discernement. Il y a quelques années, mes parents, ils ont eu des problèmes de voiture et il y a un frère qui leur en avait donné une. Comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en racheter. Et quand on a raconté ça à quelqu'un qui n'était pas croyant, il a dit, oh, vous pouvez pas prier pour que j'en ai une, moi aussi. Cette intercession n'aurait servi à rien. Là, encore une fois, c'est des petites anecdotes, on en a tous, qui émaillent nos vies. L'intercession, c'est pas quelqu'un me confie un sujet et je vais prier aveuglément. L'intercession, c'est quelque chose que le Seigneur met sur notre cœur. Et quand on est au diapason avec le Seigneur, quand on a le souci qu'il a, eh bien alors tout rentre en marche pour que nous puissions prendre ce temps de cette belle prière. Daniel, là, il va prier, mais vous l'avez entendu se plaindre pas une seule fois. Moi, j'ai relu la prière, je suis en fait pas une fois, il est en train de dire, ouais, on n'a pas mérité, c'est hyper long, je ne reverrai jamais mon pays, c'est pas juste. Là, il fait pas ça. Il va dire, Éternel, toi, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, quand on pourrait reprendre les termes. Il dit, c'est toi qui as raison, c'est parce qu'on ne t'a pas écouté. Et ça met un peu l'anecdote que j'ai illustrée ce matin, tout à l'heure. Le peuple était tellement convaincu. Il était tellement convaincu que ce qu'il faisait, c'était grâce aux promesses, il pouvait rester dans le pays, peu importe ce qu'il faisait. Il a allé dans tous les côtés de l'idolâtrie. Les prophètes avaient beau annoncer que le jugement venait, oui, et le jugement est venu. Et se sont retrouvés désemparés. Le jugement est venu, ils ont été déportés alors qu'ils pensaient qu'ils seraient jamais déportés. Parce qu'ils étaient le peuple élu, parce qu'il y avait des belles promesses. Et ils ont oublié d'adorer le Seigneur. Alors, le Seigneur a fait retomber sur eux quoi? Et c'est Daniel qui nous le dit. C'est Daniel qui va nous le dire. Il dit, tu as fait retomber sur nous. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné. Ça, c'est au verset 11. Pour ne pas écouter ta voix, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Encore une fois, la parole était là. Encore une fois, j'allais dire, l'alliance était dans leur possession, mais ils n'en ont fait que peu de cas. Et Daniel, il se plaint pas, il dit, c'est normal, je lis, c'est normal. Il reconnaît sa faute, son péché, celui de son peuple, celui des rois. Israël, et par la suite Juda, Israël n'a même pas servi, vous savez, le peuple a été divisé en deux, il y a 10 tribus qui ont fait le royaume d'Israël, et après il y a le royaume de Juda, et pourtant Israël a été déporté quasiment 400 ans avant Juda, et ça n'a pas servi de leçon. Ils ont continué, malgré les alertes. Malgré les alertes, on continue, on est immunisé. Dieu est avec nous. C'est super. Et pourtant, la déportation va les frapper, et ils vont partir en exil. Et Daniel, il déplore ses agissements, il dénonce ses actes, ses péchés. Il dit, t'as agi selon ta justice. Et c'est vrai, on le méritait. Mais maintenant, on sait qu'il y a aussi la justice de Dieu, mais on sait qu'il y a la miséricorde. Et c'est là où il en appelle à la miséricorde. Il dit, il intercède pour le peuple, car il sait, par sa lecture, que c'est le moment d'intercéder pour un retour. Il y a les 70 ans qui arrivent, Dieu, il a dit, vous serez déportés 70 ans dans une terre étrangère. Il n'a pas dit, c'est à l'infini. Il a donné une date précise. Alors malheureusement, à ses disciples, Jésus n'a pas donné de date. Ah, je sais, nous, on est frustrés, hein. On aurait bien aimé qu'il donne une date pareille, mais non, il n'a pas fait. Mais ça ne nous empêche pas d'intercéder de cette manière. Il a dit, c'est le moment, Seigneur Dieu éternel, agis selon ton nom. Et en plus, et là, ce qui est très beau hein, dans cette prière, c'est que Daniel, pas une seule fois, il avance un argument humain. Il dit, c'est toi qui l'as promis. C'est pas par notre égard, parce qu'on n'est pas mieux qu'il y a 70 ans. On vaut pas mieux, on vaut pas plus. Mais c'est parce que c'est toi qui l'as promis. C'est la fin, il finit cette prière comme ça, verset 17-18. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. C'est pas, Daniel n'est pas en train de dire, bon, maintenant on a payé, tu nous fais revenir, parce que bon, t'as 70 ans, bon, maintenant on revient. Non, il est en train de dire, la promesse que tu as faite, c'est encore une grâce. On vaut pas mieux, mais si tu le fais pas, les autres peuples autour, ils vont dire, vous avez vu, il avait dit 70 ans et personne n'est revenu. Vous savez, la parole de Dieu, souvent, elle est très claire. À l'époque, on n'était pas comme ici, au 21e siècle. Les dieux avaient des puissances. Chaque personnalité avait sa puissance, chaque roi avait sa puissance, et c'était souvent un dieu associé. Et on le voit dans Ézéchias, où ils vont venir, ils vont dire, oui, ne crois pas que ton dieu pourra te sauver. Tous les autres dieux, on est passé dessus. Et là, Ézéchias, il va aller voir le prophète, il va dire, non, nous, on a un dieu différent. Et Dieu va être différent. Il va faire partir cette armée qui voulait détruire. À cause de son nom. Pas parce qu'il méritait d'être sauvé. À cause de son nom. Dès qu'on attaque le nom de l'Éternel, le prophète, il dit, attends, là, c'est ton nom qui est attaqué. Et Daniel, là, il dit, et voilà, c'est tes compassions, c'est ton amour, c'est ta grâce. Daniel, il pleure sur le péché, il pleure sur la rébellion, il pleure sur l'éloignement du cœur du peuple. Mais il pleure aussi sur les ruines sur lesquelles est invoqué le nom de l'Éternel. Il se fait, voilà, Jérusalem est en ruine, c'est ça le Dieu de Jacob. C'est ça le Dieu d'Israël. Il vaut pas beaucoup. Hein. Et ça, c'est très dur pour un juif, encore aujourd'hui. Hein. C'est très dur à comprendre pour nous. Parce que ça, c'était lié à la puissance de Dieu. Et là, il est dit, maintenant, fais-nous grâce. Fais grâce et prépare un retour. Et cette prière, elle est incroyable, parce que sur certains points, elle ressemble au Notre Père, sur certains points, dans le sens où Daniel, il reconnaît l'autorité de Dieu. Et Daniel reconnaît son péché. Et Daniel demande la grâce de Dieu. Il dit, agis. Que ta volonté se fasse aussi sur cette terre, parce que c'est ta volonté qui va se faire. Et si nous faisons ainsi, si nous prions, c'est par une grâce que Dieu nous a permis en Jésus-Christ. On l'a vécu ce matin, hein. Ce moment de prière est un moment de grâce pure. On n'est pas venus, nous tous, parce qu'on méritait quelque chose, mais par grâce et par envie de vivre quelque chose. Chaque fois que nous prions avec sincérité de cœur, chaque fois que nous prions Dieu, l'Esprit nous porte à épancher notre cœur devant Dieu. Daniel, il va pas faire dans l'auto-apitoiement. Oui, je suis allé déjà dans les lions, mes collègues sont allés dans la fournaise, on a failli me tuer, j'ai fait plein de trucs. Non, il n'est pas dans l'auto-apitoiement. Il dit, je suis coupable, je demande pardon et agis selon ta volonté. Mais nous, comme je le disais, on n'a pas de date précise, hein, mais les promesses de Dieu, il nous les a données. Il nous a données et nous devons agir pour marcher dans les plans de Dieu. comme Néhémie et Esdras ont pu agir. C'est grâce à cette prière. Cette prière est peut-être un prémisse de ce qui va se développer par la suite. On l'avait vu ensemble, Néhémie, qui va oser parler à un roi qu'on disait très très autoritaire et très austère. Hein. Je vous renvoie à l'étude de Néhémie qu'on avait faite ensemble. Voilà, lui aussi va prier brièvement. Il va dire « Ouais, j'ai sur le cœur les ruines de Jérusalem et ça va permettre cette reconstruction. » Et Daniel avait déjà prié pour ça. Ne méprisons pas donc la prière. Ça a été un rappel cette semaine et je trouvais que ça collait bien avec ce qu'on vit là maintenant. C'est la prière dans le cadre que le Seigneur nous a donné à cœur quand nous lisons, quand nous imprégnons et quand nous sommes dans ce que Dieu veut que nous vivions. La prière est une grande efficacité. Et là, personnellement, j'ai encore à progresser sur ce sujet. Que dès qu'on parle prière, c'est difficile dans ma tête. Il y a plein de choses qui passent. Vous avez vu des fois comme c'est, hein, on pense à rien, il suffit qu'on prie et il y a 25 000 trucs qui passent dans ma tête. Mais voilà, le Seigneur veut nous y aider. Et en plus, Daniel, il a pris la cendre, hein. Il a pris la cendre et le sac. Alors ça, c'est un signe aussi de deuil. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît moins, mais c'est le deuil qu'on porte pour Jérusalem et pour le temple. Mais il sait que, voilà, Daniel va intercéder, hein. Alors il travaillait encore, mais il intercède aussi pendant son temps. Et après, on sait que Dieu pardonne par grâce et Dieu répond. Nos versets 9, verset 19, hein. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà, donc on l'a vu, hein. Daniel, il sait que Dieu va répondre. Il dit, ne tarde pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Apporte une bonne nouvelle. Pas seulement pour Israël. Et dans ce petit verset, hein, un verset, on voit que Dieu prépare d'avance et a la connaissance de toutes choses. Vous savez, hein, quand il dit « la parole n'est même pas sur tes lèvres », que je la connais déjà. Et là, on a déjà ça. Il a la connaissance de tout. Alors que son serviteur commença à prier, Dieu avait déjà accordé sa grâce, son pardon, et s'apprêtait à lui transmettre une bonne nouvelle. Et ça, c'est incroyable la manière dont Dieu va répondre. Parce qu'il va pas nous laisser sans réponse. Car Gabriel, l'ange qui annonce, hein, c'est lui qui va annoncer à Myriam, à Joseph, à Zacharie, la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste. Il va l'annoncer à un roi. C'est par cette grâce aussi que nous sommes sauvés, non par nos qualités humaines, non par nos connaissances, non par nos années d'études ou par notre compte bancaire. Mais c'est par la grâce de Dieu uniquement qui nous a pardonnés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle que va annoncer Gabriel à Daniel. Vous imaginez, là on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant il annonce déjà ça. C'est une incroyable annonce que Dieu va envoyer là. Parce que Dieu répond et Dieu rétablit. Dieu pardonne. On a vu, Dieu pardonne par grâce. Gabriel donc il va annoncer des grandes choses et ça c'est ce qu'on va lire ensemble. La fin, ça va être la réponse. Donc on prend le verset 20 à 27. Daniel continue, il dit « Daniel, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je me présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne, de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'introduisit et s'entretient avec moi. Il me dit « Daniel ». Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc. Et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation, et s'est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié d'une de la semaine. et fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc voilà, on va retenir certaines choses. Voilà, Dieu promet et Dieu pardonne, promet et rétablit. Donc qu'est-ce qu'il promet ? Il promet le retour en Israël et le retour de son peuple. Il promet qu'on va rebâtir la ville. Alors pour nous, hein, c'est de l'histoire, on est d'accord, mais quand on contextualise Daniel, ce vieil homme qui reverra, d'après la Bible, il n'a jamais revu Jérusalem, ni son peuple, ni Israël, il serait mort à Babylone, à son âge, parce qu'il a vécu quand même assez longtemps. C'est quelqu'un qui sait que ça va être rebâti. Il va pas le voir, mais il sait que ça va être rebâti. Ils disent non seulement sa ville, mais son temple sera rebâti. Ça, c'est déjà beau. Gabriel s'arrête pas là, il dit, il va donner un oin. Alors le oin, c'est le même nom que le Messie, mais c'est le même nom que Christ. En fait, oin, c'est un Messie, et c'est aussi Christ, c'est celui qui est oin. Donc il est en train de promettre quelque chose, et c'est pourquoi, hein, et c'est pour le monde aussi, c'est pas que pour Israël, il dit, je vais donner quelqu'un pour en finir à tout jamais avec l'iniquité et le péché. Ce qui est pas facile, hein. C'est ce qu'il dit au verset 24, hein. Il dit, je vais donner 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Humainement, c'est pas possible. Donc il faut quelqu'un de nouveau, et c'est ce qu'il dit, il va y avoir un oin qui va être mis à part, quelqu'un qui va être mis à part, qui va venir rétablir une justice pour l'éternité et en finir pour les sacrifices. Et c'est déjà une annonce du Messie. Il y a quelqu'un qui va venir porter sur lui une alliance éternelle. Et finalement, il annonce une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Parce qu'il va rétablir son peuple, il va rétablir son temple, mais surtout, il va offrir la promesse d'un oin, la promesse d'un Messie. Savoir que la promesse d'un Messie, dans l'Ancien Testament, elle y est déjà. Et dans le Nouveau Testament, elle y sera aussi. C'est quelque chose qui est très porteur. Ça a disparu dans les années 200, mais c'était très porteur dans le judaïsme. Et une partie du christianisme aussi l'avait découvert et espéré le prochain retour. Et nous, c'est ce qui nous motive aussi, le retour de Christ en gloire. Le retour de celui qui est déjà venu porter. Gabriel, là, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et il dit, il y a des choses qui vont arriver. Je vais te donner des périodes qui sont plus ou moins précises, des dates. Mais il dit voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose de précis qui va arriver. Et c'est tellement précis que je le disais souvent avec le livre de Daniel, c'est que ceux qui ne croient pas disent, ben ça a été rajouté. Parce que c'est pas possible qu'on ait autant précis sur les dates, sur les choses comme ça que Gabriel avance. Il faut l'avoir déjà vécu. Donc voilà pourquoi il y a des gens, ils disent, Daniel s'est triché, il a été écrit après. C'est quelqu'un qui l'a écrit puis qui a rajouté après. Après, c'est chacun qui fait comme il veut, mais je pense que nous croyons à la souveraineté de Dieu qui n'a pas besoin de temps pour savoir que les choses vont s'accomplir. Donc ça, c'est pour ça qu'il est en train de promettre. Et je vais m'attarder pas longtemps hein, sur les 70 semaines de prophétique, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et ça serait beaucoup trop long. Il y a des choses, il y a des découpages, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est chacun qui se fera. Mais il y a quelques dates qui sont assez intéressantes et qu'on peut vérifier parce que ça, c'est des dates de l'histoire. Elles étaient prophétiques au temps de Daniel, mais pour nous, elles sont historiques. Donc, les 70 semaines, il dit, ça sera divisé en deux. Il y aura déjà 7 semaines. Et après, il y aura 62 semaines. Donc, il faut savoir qu'il passe des semaines prophétiques. C'est quoi? C'est 7 fois 7 ans. Voilà, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Tous les commentaires que j'ai lus, tout le monde est d'accord avec ça. C'est des années de 360 jours. Voilà, parce que sinon ça colle pas. Et voilà, au-delà de ces dates, au-delà de ces chiffres, c'est juste pour dire que voilà, Gabriel lui dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Pour sceller la vision à le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Gabriel annonce que Dieu va lui-même régler le problème du péché. Un problème de nos cœurs, c'est l'Évangile. Voilà, c'est l'oin. Et qu'est-ce qui va arriver à ce oin? Quelques versets plus tard, ils disent le oin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Jésus-Christ n'a pas eu de successeur, si ce n'est les apôtres, mais en tant que lui, il n'a pas eu de successeur en lui-même. Un successeur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la même charge. Les apôtres n'ont pas pris la même charge. Donc il est en train de dire, il n'aura pas de successeur parce que il sera lui-même son propre successeur à son retour. Ça, c'est ce qu'on verra dans la suite de Daniel. Mais c'est une grâce. Parce que Daniel est en train de prier pour son peuple, pour sa ville. Imaginez, hein, il est exilé à Babylone et Gabriel lui annonce, oui, il y a ton peuple, oui, il y a ta ville, et moi, ce que je t'annonce, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de t'annoncer qu'il n'y aura plus de problème du péché pour personne. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est quelque chose qui sera ouvert à une humanité que Daniel a vue pécheresse, défaillante, comme lui-même. Il est en train de vivre à Babylone, qui est la place à l'époque où il fallait être, mais une place qui était idolâtre. Et il se dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Au point que Seigneur va lui-même régler le problème. Et non seulement le régler le problème pour Jérusalem, pour Israël, mais pour tout le monde. Waouh! Là, vous imaginez, hein, Daniel, il pleure sur son péché, il pleure sur ses transgressions, il est en train de dire Éternel, réponds! Et t'as un ange qui arrive et lui dit, non seulement t'es pardonné, mais quand t'as commencé à prier, j'avais déjà cette parole à t'annoncer. J'avais déjà cette bonne nouvelle à t'annoncer. Ça devait lui paraître long à lui. Tout ce qu'il a vécu, la Bible après nous montre encore tout ce qu'il va vivre, mais tout ce qu'il a vécu, et il dit, non, mais quand t'as commencé à parler, j'étais déjà envoyé pour te répondre. Parce que tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Et sache-le aujourd'hui, tu es aussi un bien-aimé de Dieu en Jésus-Christ. Et lui, il dit, voilà, non seulement Jérusalem, non seulement le temple, mais il va y avoir quelque chose d'incroyable sur le pays et pour le monde. Parce que c'est une victoire finale. Et voilà pourquoi je vais juste, moi, vous donner quelque chose qui reste de l'histoire. Alors après, il y a d'autres calculs qui existent. Mais on sait que depuis l'autorisation de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie dans son ministère, donc celui qui reçoit l'onction au baptême, eh ben, il y a exactement 483 années. Donc, ce qui nous resterait avec depuis l'édit de, donc c'est Ataxerxès, celui qui a décidé de rebâtir la ville à Néhémie 1. Alors voilà, un des calculs qui existe, c'est pas le seul, mais je trouvais celui-là assez sympa dans le sens où on a un accomplissement en disant, il y a un ouin qui arrive. Après, on peut rebâtir, alors je les ai pas tous mis, je vais vous montrer tous ceux qui existent. Et qui collent, hein. Je veux dire, les dates collent, hein. C'est pas des dates inventées. Il y en a qui calculent depuis son retranchement. Voilà. Moi, je vous dis ce qui existe. Comme toujours, quand c'est pas sûr, prenez avec des pincettes. Chacun après se fait sa conviction. Le but, c'est pas de, voilà, il y a 4000 schémas qui existent, hein. Je vous en ai mis 4. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Avec toutes la manière de compter et la manière de faire tomber, les dates. Alors, il y en a qui correspondent pas, donc je vous les ai pas mis. J'ai pas trouvé comme un calcul, mais bon, j'ai pas réussi à contacter les personnes. Alors voilà, c'est pour ça. Internet, c'est bien. Il y a plein de choses. Mais vérifiez vous-même aussi. Parce que après, on peut faire coller n'importe quoi. On est d'accord. Et après, voilà, il y a je sais pas combien de manières de la lire. Vous faites vous-même après vos idées, hein. C'est aussi ça, hein. On creuse la parole de Dieu. Et après, chacun peut se mettre en recherche en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que les 70 semaines sont accomplies ou est-ce qu'il y a une bulle entre eux, la 70 semaines qui doit arriver? Voilà, ça c'est à vous de le faire. Sachez qu'en tout cas, historiquement, voilà, les 69 semaines sont prouvables. Il y a des choses très précises que même les historiens et les théologiens non-croyants s'énervent, hein, parce qu'on ne peut pas être si précis si on n'a pas vécu les choses. Donc voilà, je vais juste dire à la fin, c'est quand même que c'est une victoire finale avant de conclure. Gabriel annonce que Dieu régnera au final, vu que même s'il y a des abominations qui vont venir, hein, le verset 27, qui est assez triste, il dit, il y aura un abominateur, il y a quelqu'un qui va venir, il va faire cesser les choses, il va commettre des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et tout ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voilà. La fin du verset est en train d'annoncer, Gabriel est en train de dire à Daniel, il va y avoir des choses difficiles. Et c'est pas la première fois qu'il lui dit ça, mais voilà, toi, tu risques rien, personne risquera rien à la fin. Dans le sens où celui qui va être victorieux, eh ben, c'est Dieu. Vous savez, ça retombe, Daniel, hein, c'est un tout, hein, on sait bien, nous, on lit chapitre par chapitre, on a les semaines qui nous séparent, mais c'est la même chose que la statue, hein. Comme vous avez vu, la statue, elle est tombée sans aucune force, cette statue si arrogante, avec cette tête d'or, qui était soi-disant debout pour l'infini, elle est tombée avec une pierre qui a roulé dessus. Elle a tapé dans les pieds qui était sa faiblesse. Et là, c'est pareil. Sans le secours de personne, sans le secours d'aucune main, c'est la même manière, voilà, que la statue, c'est la même manière que l'arrogant qui va s'élever les derniers jours. La fin est arrêtée. Ce qui est arrêté, ce qui est résolu, va arriver. Donc le règne, c'est une victoire finale. Et on l'a aussi prié ce matin. Celui qui a la victoire finale, c'est Christ. Et c'est pas l'ennemi. Même s'il s'excite, même s'il a peu de temps, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et le mot de Dieu, c'est un Dieu qui veut la réconciliation du pécheur. Et c'est pour ça qu'il a envoyé cette bonne nouvelle avant. Vous voyez, là aussi, hein, il y a tout un processus. Il dit pas, il va y avoir de mauvaises choses et puis il va y avoir un jugement final. Non, il dit, moi, je vais offrir le salut. Et après, il se passera ce qui se passera. Donc, comme conclusion, que retenir de Daniel 9? C'est toujours délicat. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on va se bagarrer sur les 70 semaines pour savoir qui a raison? Est-ce que chacun va faire son propre schéma pour être sûr de tomber juste? Ou est-ce qu'on va se dire, on va deviner qu'est-ce qui se passe? Ou on va retenir la ferveur et la discipline de Daniel à persévérer dans la prière et les Écritures? Est-ce qu'on va imiter sa rigueur qu'il avait déjà dans le travail, hein, ça c'est les autres chapitres qui nous le donnent, et la vision extraordinaire qu'il avait de Dieu, au point d'avoir le cœur rempli de pour son peuple, pour son péché, et de l'épancher devant Dieu. Au moment voulu, un homme de prière, de foi, de lecture, un homme qui faisait pas de concession avec le péché qui l'entourait. Et on l'a vu, hein, depuis sa jeune âge jusqu'à la fin, c'est en agissant de cette manière, en se comportant ainsi, sans jamais se compromettre dans un milieu qui lui était hostile, que Daniel a pu vivre une vie à la gloire de Dieu et être appelé bien-aimé. Il espérait en Dieu, il a reconnu son péché, il a reconnu le besoin d'amour, de compassion et de grâce. Il comptait jamais sur lui-même. Daniel 9, moi, m'a encouragé à vivre ma vie, en lisant la parole, en priant, en intercédant, animé par le Saint-Esprit dans les temps convenables. En priant, étant conscient de la grâce que Dieu m'a offert. Il m'a offert cette grâce en Jésus-Christ. Parce que le Messie qui était promis à Daniel a été envoyé. Il a payé le prix et il a été retiré subitement. Et personne ne lui a succédé si ce n'est lui-même quand il revient. Le Messie promis a réglé le péché une fois pour toutes. Moi qui étais ennemi de Dieu, je suis devenu son ami en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce incroyable, rien que ça. Et nous pouvons alors marcher, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est ce que je veux retenir, c'est ça, c'est de plus ou de moins, par la grâce de Dieu, essayer de moins me compromettre dans un milieu qui m'est hostile. De marcher comme Daniel nous a aussi montré, Jésus-Christ dans la perfection, mais Daniel dans ce qu'il était déjà. Dans un monde qui est plus encourageant, hostile à la Bible, qui est où la vérité a été descendue en flèche en disant « chacun sa vérité ». Et nous sommes aspirés et divertis par tellement d'autres choses, par tellement d'autres pensées, mais nous avons un avertissement de la parole de Dieu à tenir ferme, car les temps à vivre ne sont pas simples, surtout les temps qui seront les derniers. Éphésiens 6, verset 13, Paul rappelle « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Mais quand il va écrire aussi à Timothée, il va faire cette lettre à Timothée, il va lui dire chapitre 3, versets 1 et 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Bon, personnellement, je me suis senti visé par un ou deux. Je me suis dit, ouh, il faut quand même remettre... C'est difficile, hein, ce qu'il dit Paul, là. On a l'impression qu'il décrit notre génération. Et au chapitre 4, versets 3 et 4, il va dire, « Car le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. » Voilà, Paul, il n'est pas en train de dresser un très beau portrait de ce qui se passe. Eh bien, comme Daniel, en fait. Daniel vivait un peu ces mêmes choses, des fables, il détourne, on se donne des docteurs selon notre beau plaisir. On se tourne vers des fables parce qu'on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et la Bible n'est pas toujours agréable avec l'état de notre cœur. Et Daniel en avait conscience. La prière qu'il écrit reflète son état. Et là, si on devait retenir, j'allais dire, quelque chose de Daniel 9, c'est cette attitude de repentance et cette attitude de tenir les promesses de Dieu dans notre cœur. Parce que le monde peut nous balancer tout ce qu'il veut. Si dans notre cœur, c'est les promesses de Dieu qui nous motivent. Il a dit, la promesse que tu peux retenir, il y en a plein dans la Bible, mais il a dit qu'il reviendra. Il a dit qu'il nous préparait une place. Il a dit qu'il nous abandonnerait pas. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Retiens celle que tu as besoin au moment où tu traverses pour ne pas te laisser et ne pas me laisser me donner des docteurs selon mes propres désirs et détourner l'oreille de la vérité. Vous savez, Daniel, il aurait pu, il l'a jamais fait. Il aurait pu devenir idolâtre, ça lui aurait coûté moins de problèmes. Mais voilà, si on pouvait retenir cette ardeur de l'amour de la parole de Dieu, de la prière sincère, et de m'être motivé par les promesses de pardon, de délivrance, de rétablissement. Parce que c'est un Dieu qui rétablit.